Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de la situation des restaurateurs ce matin en première heure d'émission. Vous avez vu, là, ils demandent d'une même voix au gouvernement du Québec de rouvrir à partir du 28 octobre, là, quand on aura terminé donc cette espèce de reconfinement imposé depuis les trois dernières semaines. Ça tire à sa fin là, la semaine prochaine. Ils demandent à ce qu'ils puissent pouvoir rouvrir, pouvoir vous accueillir à nouveau. Ils estiment qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils ont mis en vigueur jusqu'à ce qu'on les reconfine toutes les mesures sécuritaires et sanitaires qui s'imposaient. Puis ils disent, on n'a pas eu d'éclosion dans nos restaurants, donc pourquoi encore sommes-nous punis? On va faire une discussion là-dessus. Je vais vous demander, vous, si vous êtes d'accord à ce qu'on déconfine les restaurants dès le 28 octobre. Est-ce qu'on en est rendu là? Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose de possible? On a beaucoup parlé de l'impact du fait que les restaurants, c'était un lieu privilégié là, de lien social. Est-ce que, effectivement, pour notre santé mentale, ça serait important de rouvrir ces endroits-là le plus vite possible? Vous me le dites au 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Avec nous, la présidente de Brasserie Les Enfants Terribles, elle a plusieurs restaurants ici à Montréal, mais également en région. Francine Brûlé, bonjour.
Bonjour Isabelle, merci encore pour nous supporter dans cette pandémie qui nous affecte énormément.
Oui, justement Francine, comment ça se passe pour vous là? On a pris de vos nouvelles au cours des dernières semaines, des derniers mois. C'est difficile, on le sait, comme tous les restaurateurs. Il y a une lettre qui vient d'être publiée ce matin avec plus de 35 signataires. Francine, comment ça se passe pour vous?
Ben, c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile, une deuxième fermeture. Faut comprendre qu'à chaque fois qu'on ferme, on perd énormément de nourriture, on met de l'argent aux poubelles, on donne à des institutions, etc. Mais pour nous, là, c'est des pertes. Et l'aide du gouvernement qu'ils ont annoncée, mais qu'on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'on a comme aide, c'est impossible de faire des budgets. On essaie de faire du take-out, puis on est tous là à essayer de faire du take-out, à payer 30% pour Uber Eats. C'est dur. On fait des paniers. Présentement, on est en train de faire un petit coin boutique dans nos restaurants. On essaie de se réinventer. On essaie de survivre pour être là dans éventuellement, là. Mais c'est sûr que c'est très, très difficile et c'est très inquiétant.
Oui, vous dites 30%.
J'étais surprise de ne pas voir mon nom sur la liste matin parce que j'étais sûre de l'avoir signé. Mais en tout cas, je veux qu'on sache que oui, je veux ouvrir le plus tôt possible. Et la dernière chose que je voudrais, c'est qu'ils nous gardent fermés, puis qu'en janvier, ils nous disent « là, vous pouvez ouvrir ». Ça serait la fin de tout le monde, je pense. On s'en sortira pas.
Ben oui, parce que janvier, c'est probablement le moins bon mois dans toute l'année, hein, Francine Brûlé, sans doute.
Oui, oui, exactement. Puis c'est les gains de l'année précédente qui fait qu'on peut survivre ce mois-là, janvier, février. Ouais. Mais si, avec la situation dans laquelle on est, puis qui empire à chaque jour, c'est pire qu'hier, fallait ouvrir en janvier, sans avoir eu Noël et les mois précédents, c'est comme demain, il va faire 22. Ça serait une journée exceptionnelle. On pourrait mettre de l'argent dans nos coffres. Et la réalité, Isabelle, c'est que on n'en a pas eu de problème dans nos 5 restaurants, on en avait 5 sur les 6 d'ouvert. On n'a pas eu de cas. On a fait attention. On a investi des milliers de dollars pour vraiment respecter ce que le gouvernement nous demandait parce qu'on comprend qu'il y a un problème. On comprend la situation. On n'est pas insignifiant. Puis, on n'a pas eu de problème. Les clients ils participaient, se lavaient les mains, mettaient leurs masques. Les employés étaient impeccables. On n'a pas eu. Et c'est venu comme un choc de fermer. Puis là, ça devient lourd. Honnêtement, ouais. Ça devient très lourd.
Oui, le stationnement gratuit à partir, là, ça a été annoncé tout à l'heure. En tout cas, ça va être confirmé par la mairesse Valérie Plante pour les restaurateurs de Montréal, donc, ou toute autre place commerciale, là, toutes les artères commerciales, il n'y aura plus de stationnement payant. Les parcomètres vont être gratuits à partir du 14 novembre. Est-ce que ça, c'est le genre de mesure qui peut aider, Francine Brûlé?
Aucune idée, Isabelle. Ça ne peut pas nuire. Toute aide ne nuit pas. Ça va aider si on est ouvert.
Oui, c'est ça.
Je sais, ça va aider les boutiques peut-être, oui. Ça va aider aux gens de l'extérieur de venir. Honnêtement, je le sais pas. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais je me suis pas fait une tête sur ça. Ouais. Mais on voit que le gouvernement essaie de nous aider. Sauf que on dirait que pour les restaurants, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui marche pas dans pourquoi on peut passer l'Halloween. Puis, on peut pas aller manger au restaurant en faisant attention. Ou on peut aller dans un magasin où tout le monde touche à tout. Ça, il y a des grandes surfaces. Là. Tout le monde a les mains partout. Dans un restaurant, là, on voit pas les clients se promener et toucher à tout. Puis, quand ils touchent aux poignets, on a quelqu'un qu'on paye pour désinfecter les poignets. Alors, il y a quelque chose qui marche pas dans leur vision. Mm. Moi, je pense, puis en tout cas, malheureusement, je sais qu'il y a eu de l'abus. Puis on paye pour certains qui ont fait de l'abus, parce que j'ai vu, je suis allée dans certains endroits, puis il n'y avait aucune retenue. Et ça devrait être saisi. Ça, ils devraient être sévères avec eux, mais pas avec toutes les autres. Nous, les parents qui venaient avec leurs enfants, c'était vraiment... en tout cas, je commence à être vraiment énervée.
Mais merci, Francine. Non, pas du tout. C'est ça qu'on veut avoir. On veut vraiment le pouls de la situation. On veut l'entendre de ceux qui le vivent. Merci. Et puis, je sais que vous êtes attendue, donc je vous laisse aller. Mais on a bien compris votre message, Francine Brûlé. Vous l'avez dit, là, on peut pas vivre juste avec les take-out, là.
Non, on peut pas. Mais surtout pas avec l'aide du gouvernement pour les salaires qui est moins élevé qu'il était. Alors, tout nous coûte plus cher que ça nous coûtait avec l'aide et on n'a pas de revenus. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est des mathématiques.
Merci beaucoup, Francine Brûlé.
Merci, Isabelle.
Présidente des Brasseries Les Enfants Terribles. Elle a 6 restaurants, 5 qui ont été ouverts jusqu'à ce qu'on les reconfine à nouveau il y a 3 semaines. On va parler tout de suite à Richard Scofield. Il est président directeur général du groupe Saint-Hubert. Bonjour, Monsieur Scofield. Vous avez 113 restos Saint-Hubert au Québec. De ce nombre, il y en a 83 qui sont fermés, incluant ceux de la Mauricie, là, qui vont devoir fermer prochainement ce week-end. Ça fait, vous êtes paralysé d'une certaine façon, là.
Oh, absolument. On est une grande chaîne et on a beaucoup de franchisés à travers la province. Et comme vous l'avez dit, la majorité de nos restaurants sont fermés, les salles à manger sont fermées. Donc oui, effectivement, on en souffre.
Oui. Bon, vous avez signé cette lettre, vous aussi. Je pense que si on leur donnait la chance, il n'y a pas un restaurateur qui ne l'aurait pas signé, cet appel à l'aide que vous lancez ce matin à Québec, de dire « Donnez-nous l'heure juste ». Hein. C'est ça votre position, je pense, M. Scofield. Vous dites, là, en ce moment, là, on nous parle de 28 jours, donc en théorie, c'est le 28 octobre qu'on devrait pouvoir normalement rouvrir, mais vous le savez pas. Personne vous a vraiment confirmé que vous rouvriez la semaine prochaine.
Effectivement, dans 6 jours, on va atteindre le 28 jours, puis on sait pas. Personne nous a dit qu'est-ce qui va arriver après ça. On pense honnêtement que ça va être prolongé, mais on aimerait connaître le pourquoi les restaurants sont fermés. On a suivi les recommandations. On a travaillé de proche avec les gouvernements pour la réouverture le 15 juin. On a discuté, on a travaillé avec la santé publique, on a mis en place l'ensemble des recommandations. Et bien honnêtement, je pense que la restauration a très bien fait leur travail pour bien respecter les demandes puis bien sécuriser les employés et nos clients. Donc, s'il y a quelque chose qui empêche les restaurants d'ouvrir, parce que tout le commerce de détail est encore ouvert, on voit les attentes dans les Costco, dans les supermarchés. Chez nous, le client est plus ou moins contrôlés, ils sont assis à une table, ils sont séparés des autres, il n'y a pas de va-et-vient. Donc, on aimerait ça comprendre. Puis, s'il y a des enjeux particuliers, on est prêt à travailler davantage avec les gouvernements pour trouver d'autres solutions. Mais, s'il vous plaît, laissez-nous ouvrir, laissez-nous faire notre métier pour le bien-être des clients, pour nos employés qui sont sans emploi pour une deuxième fois, puis ils n'ont même pas de date de savoir quand est-ce qu'ils vont être capables de retrouver leur vie.
Vous dites laissez-nous rouvrir. Là, on entend bien votre cri du cœur, Richard Scofield. Si ça se poursuivait, là, si par exemple dans 6 jours le gouvernement disait écoutez, on est obligé de continuer de maintenir les restos fermés. Il y a encore plus de 1000 cas par jour de nouvelles infections avec ce virus-là. Ça reste encore très fragile. C'est un peu le message qu'on nous donne tous les jours, même si on nous fait miroiter l'espoir, la lumière au bout du tunnel. Il y a encore toujours ces cas d'infection. Quand on ouvre le journal tous les matins en ce moment, là, depuis quelques jours, on voit qu'il y a une reprise là, de la pandémie dans certains endroits comme les CHSLD, comme les résidences pour personnes âgées. Donc ça, c'est sûr que ça inquiète, on s'en doute bien, la santé publique. Rouvrir les restaurants dans un contexte comme ça, vous paraît-il tolérable, réaliste, faisable?
Bien, je comprends très bien. Et je pense que M. Legault l'a très bien dit il y a deux jours. Ils ont atteint une partie de leur objectif de stabiliser le nombre de cas autour de 1000 cas par jour, qui est énorme. On ne minimise pas ça du tout. Par contre, depuis l'ouverture des restaurants, on n'a pas eu d'éclosion. On n'a pas eu... Moi, mes restaurants, une partie d'eux, au moins, pour emporter livraison, on reste ouvert. Ils n'ont jamais fermé depuis le 15 mars. On a resté ouvert. On était sécuritaire depuis jour 1. Aujourd'hui, le monde, ils ont besoin d'aide pour socialiser, de sortir. Donc, au lieu d'avoir des rencontres à la maison, d'inviter du monde, puis avoir des contextes qui pourraient être plus dangereux, nous, on permet d'avoir un endroit qui permet un contact social, que ça va juste sortir avec la famille, manger dans un restaurant, changer l'air un petit peu, mais qui va être sécuritaire, mais permet au monde de voir d'autres choses, de vivre d'autres choses.
Vous voyez ça comment, alors, cette reprise? Disons que effectivement il y a une levée le 28 octobre. Vous suggérez de fonctionner comment, M. Scofield, pour les restaurants Saint-Hubert, en tous les cas?
Ben, ça commence avec une date. Une fois qu'on a cette date-là, on a tout fermé, on a tout rouvert, on a nos plans, on va le faire de même façon. Commencer par parler à nos employés, nos gestionnaires sont là, sont formés. On a mis des milliers de dollars dans chacun des restaurants pour s'équiper. Tout est en place. Puis s'il y a des mesures supplémentaires, on va être capable de rapidement les mettre en place. Mais c'est de savoir, on ne sait pas. On ne sait pas c'est où les sources d'inquiétude en ce moment. On ne sait pas pourquoi ont été fermés. Juste avant la fermeture, il y avait 2200 visites des services policiers pour des inspections de restaurants pour voir si on respectait les mesures. Puis il n'y avait rien qui est sorti de ça. Ils ont dit qu'on faisait bien notre travail.
Mais donc, trouvez-vous que ça a été injuste, cette fermeture, même?
Le gouvernement était en position très difficile. Il fallait qu'il réagisse. Puis dans la lettre qu'on écrit, de loin de critiquer le gouvernement, c'est pas notre objectif de tout. Lors de la fermeture, on a embarqué, on a suivi, on a demandé l'aide financière pour l'ensemble de la restauration. Ils sont venus rapidement, ils nous ont supportés. Puis je comprends que ça c'est pas assez pour tout le monde. Puis on a tous des loyers différents, mais au moins ils sont arrivés à quelque chose. Donc ça c'est dans le passé. Maintenant on garde. Selon le gouvernement, la situation s'est stabilisée. Là, on a un problème de santé mentale qui existe. On a nos employés, on a des clients qui cherchent à sortir, de retrouver un peu du normal qu'ils connaissaient avant pour leur bien-être. Et c'est là où on va regarder le futur puis non le passé. Mmh.
Et là, vous dites même, pourquoi le Québec prendrait-il pas l'exemple sur les pays scandinaves, la France, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays qui, malgré la deuxième vague, ont maintenu les salles à manger ouvertes? Il y a quand même, on le sait, ce couvre-feu en France qui permet tout de même aux restaurateurs d'ouvrir jusqu'à 21h, donc jusqu'à cette heure-là où on impose donc un couvre-feu. Est-ce que ça serait d'accord, ça serait faisable pour vous d'avoir par exemple un horaire réduit? Qu'est-ce que vous accepteriez?
On est très ouvert à regarder d'autres solutions. Puis les horaires réduits, en général, les restaurants, ils ont réduit leurs heures depuis la réouverture. Mais si c'est des éléments comme un couvre-feu qui peut aider à sécuriser les gouvernements, puis on va s'ajuster en conséquence. Mais je pense que le plus vite qu'on peut trouver nos activités dans un sens qu'on connaissait avant, le plus vite que nous, comme peuple, on va être bien et on est capable de passer à travers, parce que le temps commence à plus difficile, on regarde dehors, il fait noir plus tôt, on est à la maison, c'est pas comme on n'a pas le printemps qui arrive pour nous encourager, on a l'hiver qui arrive, donc on a besoin de trouver un peu de notre vie comme on connaissait avant.
Avant de vous laisser aller, M. Scofield, j'ai France qui m'écrit, les restaurants pour moi sont pas des services essentiels, c'est pas vrai que toutes les restes sont les règles sont respectées. Mon conjoint et moi, nous sommes allés dans un resto où on avait réservé au préalable et puis ils nous ont mis à côté d'un groupe de 20 personnes, plusieurs familles ensemble. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de commentaires?
Je pense dans toutes les industries, on peut trouver des personnes qui mettent pas en place ce qui est demandé. Je pense qu'on peut viser ceux qui respectent pas, puis on peut les fermer. Mais malheureusement, les exceptions, puis c'est des cas rares. Dans une mauvaise réputation pour l'ensemble de l'industrie, mais on peut trouver des cas de supermarchés qui respectent pas les règles. On peut trouver des cas de peu importe le type de commerce qui respecte pas les règles. Mais ça, je pense que les policiers doivent avoir la capacité de dire vous respectez pas, vous faites pas votre travail, on vous ferme. Mais punis pas ceux qui ont investi, qui respectent puis qui font bien leur travail.
Est-ce qu'il y a des Saint-Hubert qui risquent de fermer?
À cause de l'enfermement?
Ben oui.
On est chanceux, on a un grand réseau, on a un business qui était quand même balancé avec nos ventes pour emporter livraison, on souffre, on roule à moins 30% de nos ventes. Moi, je considère chanceux parce qu'on a quand même beaucoup de ventes, mais quand on regarde l'ampleur de nos restaurants et nos frais fixes, c'est sûr qu'on est à perte, mais comme réseau, on va être capable de se supporter. Puis on va se retrouver après la crise. Moi, mes pensées sont pour les indépendants, les plus petits restaurants qui n'ont pas les ressources d'une grande chaîne. C'est triste de voir autant de restaurants en difficulté. La restauration, c'est une belle industrie, puis c'est une économie qu'on a besoin. Si les restaurants ferment, les fournisseurs vont perdre des ventes, les producteurs vont perdre des ventes, tout le monde va être affecté. Donc, c'est toujours inquiétant. Moi, je me considère chanceux, mais c'est certain qu'on a eu l'impact.
Clairement. Merci, Richard Scofield, président directeur général du groupe Saint-Hubert. Et c'est pour ça qu'on parlait. Merci, Richard. C'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs avant à quelqu'un. Là, on vient de parler à M. Scofield aussi, qui est d'une grande chaîne, Saint-Hubert, que vous connaissez bien. Les Enfants Terribles, c'est à plus petite échelle. Restauratrice avec quelques restaurants, mais imaginez aussi le restaurateur qui a une vingtaine de tables, ou même moins, là. Il y a des petits restaurants de quartier, là. On en a vu qui sont déjà en faillite, qui n'ont pas pu continuer. Le premier confinement a été mortel pour eux. Imaginez ce deuxième, parce qu'on va dire les vraies affaires, c'est ça, là. C'est un deuxième confinement qu'ils doivent vivre. En même temps, beaucoup de gens me disent « Oui, mais c'est pas un service essentiel, les restaurants. » Alors, votre opinion là-dessus, 514-790-9850. Faut-il rouvrir les restaurants sans problème la semaine prochaine? Le gouvernement devrait-il donner l'heure juste le plus vite possible afin que les restaurateurs arrêtent de se faire d'avoir des sueurs froides? Là, je me mets à leur place. On vous parle tout de suite après. C'est sûr que pour les restaurateurs en zone orange et encore plus vrai en zone rouge puisqu'ils sont fermés, les temps sont extrêmement difficiles. Est-ce que le restaurant pour vous, c'est un service essentiel? D'abord, ça c'est une question. Êtes-vous d'accord pour qu'on déconfine les restaurants dès le 28 octobre et qu'on leur annonce, pas le 28, mais peut-être avant, ça serait le fun d'être prévenu. Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour.
Moi, je pense que les gens sont dépressifs. Donc, premièrement, pourquoi déconfiner les restaurants quand je peux même pas voir ma propre mère, ma propre sœur chez moi? Là? Ça veut dire qu'il faut comme faire une suite logique là, pour pas retomber encore pour créer une troisième vague. De ça n'a plus de sens. Là.
Fait que vous dites on déconfinera les restaurants quand on déconfinera tout le monde, finalement.
Ben, je préférerais voir ma famille en premier, ce qui me rend dépressif plus qu'autre chose. On se commandera un bon take-out du restaurant en famille. Par la suite, si ça se passe bien dans les familles, là, on pourra passer à réouvrir les salles à manger. Là.
D'accord. Merci. Très clair. Luc, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre opinion, Luc?
Il n'y en a pas question. Une seconde, madame. Je ne sais pas qu'ils ne comprennent pas que quand François Legault parle, il me semble qu'il ne parle pas chinois, François Legault. Là. Lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'il veut pas qu'il se passe? C'est qu'il y en a 1500, 2000, 3000 cas par jour. Regardez, là, tout le monde est écœuré du virus, mais on dirait que tout le monde fait exprès que ça dure longtemps. Il me semble que, tu sais, le bon sens, il est rendu où, là, madame? Je vous le pose la question, là.
Mm-hmm. Hein? C'est un bon point, Luc. Effectivement, bon, il y a des gens qui disent qu'ils sont peut-être pas essentiels à notre survie, les restaurateurs, mais les employés qui travaillent, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la restauration, c'est leur gagne-pain. Donc, c'est sûr que il y a effectivement je voyais ce matin, il y avait une publicité aussi de Restaurant Canada dans le journal de Montréal où ça nous dit, imaginez la vie sans restaurant. Il y a des centaines de milliers d'employés partout au pays, là. Les restaurateurs ont investi 750 milliards de dollars dans la formation de leur personnel, des mesures de désinfection, de la protection individuelle, des systèmes de purification d'air, toutes sortes de matériel de protection pour que dans les restaurants, on ait un niveau de sécurité élevé pour les clients. Fait qu'ils estiment avoir fait ce qu'il fallait faire. Vous comprenez, Luc?
Ben oui, mais je veux bien. Je sympathise avec ce monde-là qui travaille là-dedans. Mais qu'est-ce que je veux vous faire? Là, on est en pleine pandémie. Mmh. On est en deuxième vague. Troisième, quatrième vague. C'est ça qu'ils veulent.
Ouais. Merci, Luc. Merci beaucoup. François, votre opinion là-dessus sur les restaurants? On rouvre ou on les maintient fermés?
On rouvre, on les maintient ouverts parce que tu peux pas empêcher la poule de pondre un œuf, tu peux pas empêcher la vache de donner du lait. Faut que ça tourne, y a pas le choix. Sans ça, ça va créer d'autres problèmes encore plus gros.
Mm-hmm. Vous faites référence à toute la chaîne alimentaire, finalement, la chaîne de production, transformation. On peut même aller après dire.
Ben oui, bon, ça va créer. Ben oui, c'est sûr. Les emplois qui sont reliés à ça, la production alimentaire qui est reliée à ça. C'est trop gros, tu peux pas arrêter ça. Il faut que ça continue à tourner au minimum, mais il faut que ça continue à tourner pareil. Sans ça, tantôt, les gens vont pleurer leur vie quand ils vont vouloir acheter une douzaine d'œufs. Il va coûter 10$, là.
Ouais.
Pour broyer leur vie.
Ouais. Êtes-vous dans le domaine, vous, François?
Non, moi, je suis dans le transport, mais j'ai des amis qui sont dans l'alimentation d'un restaurant, puis j'ai des amis qui sont fermés.
Ouais. Puis le transport aussi, c'est très affecté par ça, là. Merci, François. Merci beaucoup. Et justement, le commentaire de François nous amène à la pause et à notre prochaine entrevue, parce qu'on va parler justement à la présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. C'est vrai qu'on se rend pas compte, forcément, de l'impact sur toute la chaîne alimentaire. C'est une chaîne alimentaire qui est longue et qui a beaucoup, beaucoup d'intervenants. C'est pas juste le restaurateur, c'est pas juste celui qui vous envoie du take-out, c'est vraiment jusqu'au petit producteur. Alors, on parle de ça tout de suite après la pause et bien sûr vos commentaires. 514-790-9850, 1-866-790-9850, un peu partout au Québec. A bottle of red. A bottle of white. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. On discute ce matin de cette demande, en fait, d'au moins 35 personnes dans l'industrie de la restauration et tout ce qui touche, en fait, l'industrie comme telle, que ça soit même la transformation alimentaire. On demande, en fait, au gouvernement de François Legault de réévaluer rapidement la situation actuelle dans l'industrie et de permettre la réouverture des salles à manger partout au Québec. Parce que on n'en peut plus, là. C'est un peu ça le message des restaurateurs, vous les avez entendus. Là où il y a un autre impact important sur toute la chaîne alimentaire, c'est en matière de transformation alimentaire. Puis ça, on a tendance à l'oublier avec nous, la présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Sylvie Cloutier. Bonjour, Madame Cloutier.
Bonjour.
Situez-nous un peu l'impact sur vous, là. C'est de quel est-il?
Bien, en fait, l'industrie de la transformation alimentaire au Québec, c'est 1600 entreprises. C'est 70 000 travailleurs directs, puis à peu près 100 000 emplois indirects. Un aliment transformé, c'est tout aliment qui n'est plus dans sa forme originale. Donc, que ce soit des ingrédients, farine, beurre, huile, jusqu'à des produits transformés, bien évidemment, 30% de tout le chiffre d'affaires de cette industrie-là est dédié à la restauration, mais aussi aux hôtels, aux écoles, aux cafétérias. Mais c'est quand même, ça représente à peu près 10 milliards de dollars.
10 milliards de dollars, donc depuis la pandémie, puis le deuxième reconfinement pour les restaurateurs, de quelle façon ça a un impact? Le jeu de domino, là, vous le sentez?
On le sent très bien. En fait, je sais que vous avez parlé à M. Scofield plus tôt, mais il y a des secteurs où, évidemment, avec la fermeture des restaurants, on ne retrouve pas le même type d'achat en épicerie. Donc, les habitudes d'achat ne sont pas les mêmes quand les restaurants sont fermés. Évidemment, on va retrouver certains produits en épicerie qui sont achetés de façon plus importante, mais ça compense pas et loin de là pour tout le secteur de la restauration, évidemment, qui est fermé dans les zones rouges actuellement, mais dans des zones importantes comme Montréal et Québec, par exemple.
Comment vous voyez une réouverture, vous, à court terme?
Mais évidemment, une réouverture progressive. On s'entend que les restaurateurs, tout comme les transformateurs alimentaires, ont mis en place des mesures sanitaires et de sécurité importantes, donc plexiglas, masques, désinfectants, distanciation, etc., qui fait en sorte que ça peut être un environnement pour des rencontres qui est beaucoup plus sécuritaire que dans des maisons privées, par exemple. Alors, pour nous, on voit une réouverture progressive, évidemment avec les mesures de sécurité les plus hautes, mais une réouverture progressive. En Europe actuellement, évidemment, on voit des cas qui sont beaucoup plus importants qu'ici, mais on a tenu bon et on n'a pas fermé les restaurants. On voit pas d'éclosion particulière qui proviennent de ces secteurs-là.
D'ailleurs, ce matin, la directrice de la santé publique de Montréal disait à mon collègue Paul Arcand qu'effectivement, à Montréal, en tout cas, il n'y a pas eu d'éclosion connue là, dans les restaurants.
Exactement.
En même temps, vous qui êtes en transformation alimentaire, Sylvie Cloutier, j'ai envie de vous parler de l'usine de Limel à Vallée-Jonction, là, en zone rouge, où là, on a vu qu'il y a une éclosion majeure. Là, on parle de au moins 70 employés qui ont reçu un test positif à la COVID. C'est quand même un peu inquiétant, ça, de voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Écoutez, c'est triste. On a connu des cas similaires dans la première vague. On n'est pas à l'abri malgré toutes les mesures mises en place.
C'est ça.
Je peux vous dire que Olimel, par exemple, a des mesures de distanciation, des plexiglas, désinfectants, etc., etc. Mais on s'entend, c'est dans des régions où la maladie peut se propager à l'extérieur de l'usine et on la ramène au niveau de l'usine. Alors évidemment, actuellement, il y a des mesures de sécurité en place qui sont importantes. On teste tout le monde avant de rentrer, etc. Là,
mais là, c'est une éclosion majeure. Là. Je disais 70, mais on peut même dire là, au moins 80 employés. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a quand même un employé de l'IMEL qui travaillait à cette usine d'abattage. C'est du porc, là, ici, dont il s'agit. Là, c'est en Beauce. Bon, on ne sait pas si c'est... Bon, il a été déclaré positif au coronavirus, mais ça n'a pas été confirmé qu'il est mort de ça. Donc, bon,
là, exactement.
On est encore dans l'hypothèse, mais disons que c'est quand même inquiétant. C'est un sujet d'inquiétude et les gens se disent, ben là, coudonc, il y a des gens qui me disent, on est-tu capable de savoir si on veut pas manger du porc qui viendrait d'une usine contaminée à la COVID?
Non.
Bon, mais c'est délicat en fait, tout ça, là, parce que c'est tout relié, c'est délicat. Comment s'assurer alors que tout est bien sécuritaire?
Bien, vous savez, dès le départ, en alimentation, on a des mesures sanitaires qui sont extrêmement élevées. On travaille, il y a des inspecteurs dans les usines, on travaille avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Déjà, les gens sont vêtus de façon sécuritaire, portent des bottes, des
gants. Puis imaginez, il y a quand même, une infection ici. Il y a quand même eu un foyer d'éclosion. Puis là, je parle de Vallée-Jonction, mais il y a aussi, je me souviens, en avril, on avait parlé aussi de l'IMEL de l'usine de Yamachiche. Là aussi, il y avait eu des cas de COVID. Voilà. Même malgré toutes ces mesures, on n'est pas à l'abri.
On n'est pas à l'abri. Ouais. Non, on n'est pas à l'abri nulle part non plus. Là. Puis vous voyez le nombre de cas au Québec qui est en hausse ou en fait qui se maintient actuellement, mais qui est quand même en hausse depuis quelques semaines. Alors évidemment, les transformateurs alimentaires, comme n'importe qui ou n'importe quel secteur, sont pas à l'abri à 100%. Parce qu'effectivement, l'éclosion ne se propage pas nécessairement à l'usine et ça peut être fait à l'extérieur. Alors, c'est très difficile à suivre, c'est très difficile à contrôler, mais toutes les mesures sont mises en place pour justement contrôler au niveau de l'usine par prise de température à l'entrée, encore une fois, distanciation, masque, gants, désinfectant. Alors, tout ce qu'on peut faire est fait.
Ouais, en tout cas, il s'est passé quelque chose là, ça, c'est clair, là.
C'est clair. Mais on peut pas pointer du doigt nécessairement l'usine. Encore une fois, on parle d'une région où il y a une éclosion, puis effectivement, c'est le plus gros employeur de la région.
Ouais.
Donc, évidemment, c'est normal qu'il soit touché.
Ouais.
Mais encore une fois, les mesures sont mises en place pour éviter ce genre d'éclosion.
Comme impact agroalimentaire, il paraît que les gens mangent moins de poulet quand les restos sont fermés. Expliquez-moi ça, Sylvie Cloutier.
En fait, 40% de la production canadienne de poulet est destinée aux restaurants et au secteur hôtel et institutionnel. Évidemment, on achète du poulet à l'épicerie, mais moins que quand les restaurants sont ouverts. Alors, on l'a vécu dans la première éclosion au printemps. On a vu des baisses drastiques de ventes de poulet, par exemple, à l'épicerie. Bien qu'il y ait eu une hausse, ça compensait pas pour tout ce qu'on vendait plus en restauration. C'était du jamais vu. Alors, on a suivi la situation de près, puis on la suit encore actuellement.
Mm-hmm.
Mais les gens, pour une raison X, vont commander plus de poulet qu'ils vont en acheter à l'épicerie pour le faire cuire à la maison.
Comment vous dites ça? Les gens vont en commander plus que?
Les gens vont commander plus de poulet au restaurant, évidemment, quand les restaurants sont ouverts, qu'ils vont en acheter à l'épicerie pour le faire cuire à la maison.
Ah ouais, c'est ça. On aime mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le prépare, en d'autres mots, c'est ça?
C'est ça, exactement.
C'est ça. Merci beaucoup, c'est intéressant. Merci beaucoup, Sylvie Cloutier. Merci bien.
Merci à vous.
On a bonjour. Gaëtan qui est avec nous. Bonjour, Gaëtan. Comment vous voyez ça?
Bonjour.
La réouverture des restaurants. Gaëtan nous a raccroché ça. On va essayer de le recontacter. Des fois, ça arrive, ces problèmes de ligne. On a Yann qui est avec nous. Bonjour, Yann. Oui, Yann, êtes-vous là?
Ben oui, je suis toujours là. Oui.
On vous écoute.
OK, parfait. Écoute, je trouve que c'est juste, j'adore le goût, c'est un poids de mesure. Je trouve ça dommage de voir que tous les restaurants sont fermés. Tu sais, les chantiers de construction, ça roule à plein cul. Tu sais, il y a plein de trucs qui roulent en ce moment. Ça prend une heure à aller faire son épicerie. Puis, aller manger au restaurant, ça prend une heure. Les restaurateurs ont pris plein de précautions à full pin. Pourquoi qu'on coupe cette économie-là? Ça passe du réparateur d'air climatisé qui est, ou autant au monsieur qui distribue le papier de toilette. Tout, c'est comme il y a plein de trucs connexes qui vont avec ça. Je pense qu'on est en train de tuer une petite économie qui dérange pas le gouvernement. Mais la construction, ça roule. Les grands quincailleries de ce monde sont ouverts. Tout le monde touche à tous les produits. Ça se propage pas.
Et vous avez raison. Je rien à, tout à fait. C'est vrai. La construction, c'est un très bon exemple. Ça, c'est sûr, Yann. Ouais, ouais. Puis souvent, là, on voit des gars pas de masque, là. Puis...
Ah, ben, écoute, je peux t'en montrer, là. C'est
ouais.
Mais tu sais, je trouve ça juste dommage de tuer cette économie-là au détriment de dire, écoute, on va faire rouler d'autres choses. Mais celle-là est plus facile à fermer. J'ai des amis là qui ont tout perdu là. Ça a pas c'est littéralement malade là. C'est des économies de leur vie là.
Ouais.
C'est vraiment dommage. Puis le pire, c'est qu'ils ont travaillé fort pour prendre les précautions.
Ouais, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yann. On s'arrête ici. Très courte pause. On poursuit avec vos commentaires après ceci. 514-790-9850. Dites-moi si vous souhaitez tout de même que pour votre état mental aussi, puis pour l'état de l'économie du Québec, on a entendu Éric Girard nous dire là, que ouf, la reprise économique tarderait, là, ça serait pas avant une couple d'années. Ça allait quand même être difficile l'année prochaine encore, donc faut se donner une petite chance. Il y a moyen de gérer ça quand même. Après, c'est sûr que ça demande la bonne volonté de tout le monde, puis des groupes qui font de party, comme on a vu à Laval, en faisant fi dans les restaurants, de tu sais, que ça danse, ça se frotte, ça fait tout ce que ça doit pas faire, finalement. Ça nuit beaucoup aux autres. À tout le monde. À tout de suite, tout le monde. We'll be right back. Les restaurateurs crient à l'aide. Ils demandent qu'on puisse permettre à leur industrie de rouvrir à partir du 28 octobre. Ils demandent à ce que le gouvernement leur envoie un message clair parce qu'ils disent en ce moment là, qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre du tout, que c'est un stress énorme pour eux, pour leurs employés. C'est vrai que c'est une industrie de plusieurs centaines de millions de dollars, des milliards en fait au Canada. Là. Et on parlait tout à l'heure avec Sylvie Cloutier qui s'occupe donc tout ce qui touche la transformation alimentaire. 70 000 travailleurs là, qui se rajoutent donc aux dizaines de milliers d'employés de la restauration. Georges, vous voyez ça comment, vous?
Mais moi, personnellement, Mme Maréchal, je crois qu'il faut réouvrir pas seulement les restos, mais pour l'instant, ma mentir juste au sujet des restos, là, pour diverses raisons. Premièrement, l'OMS nous a déjà dit qu'il va falloir vivre avec. C'est pas un virus qui va juste disparaître d'un jour au lendemain. Mm-hmm. Fait que là, présentement, là, on est en train de créer notre propre récession, notre propre crise financière. Il y a bien du monde qui pète beaucoup de choses. Mm. Deuxièmement, là, je sais pas pourquoi le gouvernement nous dit 28 jours, là. Tout le monde sait exactement ce qui se passe vers le temps de Noël. C'est la saison de la grippe qui part officiellement. Fait que cette année, on a le COVID qui s'invite à table. Fait qu'est-ce qui va se passer? Ça va réexploser. Fait qu'une troisième, une quatrième vague, il y en aura tout le temps. Il va falloir vivre avec. On ne peut pas tuer le business. Mmh.
Merci.
Ça, c'est mon commentaire.
Merci beaucoup, Georges. Merci de votre opinion. Surtout que, bon, il y a peut-être moyen de trouver des solutions. On va voir ce qu'en pense Patrice Léger-Bourgoin. Il est directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, signataire de cette lettre, justement, des restaurateurs qui demandent donc qu'on puisse relancer leur industrie. Bonjour, Patrice Léger-Bourgoin.
Bonjour, Isabelle.
De quelle façon êtes-vous touché, vous, les brasseurs du Québec?
On est touché principalement au niveau de la gestion de nos infrastructures. En termes de volume de vente, il y a eu une baisse, mais l'augmentation des volumes de vente pour à travers le réseau des épiceries et des dépanneurs est venue un peu atténuer les impacts. Par contre, la façon de commercialiser de la bière dans les réseaux d'épiceries et de dépanneurs est grandement différente à la façon de procéder avec les restaurants. Je vous donne un exemple concret, les barils de fût. Les gros barils de fût pour la bière en fût, on n'en retrouve pas à l'épicerie, on les retrouve exclusivement dans les restaurants. Alors là, il faut gérer les inventaires, les dates de péremption des produits, et ça a un impact énorme pour nous. Et je vous dirais également, ce qui nous préoccupe, ce sont les impacts sur l'industrie de la restauration et du tourisme à long terme. Mm-hmm. C'était déjà une industrie qui devait fonctionner dans un environnement extrêmement compétitif, avec des marges de bénéficiaires très limitées, et le fardeau que nos collègues restaurateurs ont à supporter actuellement là est très préoccupant là.
Ouais. J'ai Pierre Ménard là qui m'écrit Saint-Hubert sur Tachereau. Et il dit, on peut rouvrir de façon sécuritaire, qu'on nous laisse nos salles jusqu'à 20 heures. Au moins, on va sauver nos commerces, sauver les emplois de nos employés, les fournisseurs, tout ça. Moi, il dit, je suis capable de m'arranger avec une réduction de capacité à 50%, des heures réduites. En ce moment, c'est le take-out, les livraisons, mais c'est peu. Là. C'est ce que disait Francine Brûlé tout à l'heure. On n'est pas capable, dans ces restaurants, les enfants terribles, juste de pouvoir survivre avec du take-out. On a eu cette impression là, que le service de livraison, ça permettait de sauver l'industrie, mais c'est loin d'être le cas. Dites-moi, vous, pour les brasseurs, Patrice Léger-Bourgoin, on parle de qui? Est-ce que ce sont les micro-brasseries, mais ou également les gros brasseurs du Québec également qui sont affectés?
Dans mon cas, on parle de Labatt, Molson, Siemens, et l'exemple du take-out est un excellent exemple parce que souvent, pour les restaurateurs, la marge bénéficiaire, ce qui leur permet de faire du profit à la fin de l'année, ce n'est pas sur le plat que vous commandez, c'est sur l'alcool. Mm-hmm. Et il n'y a pas de culture au Québec dans le take-out de commander de l'alcool, même si on peut commander de la bière ou du vin lorsqu'il y a une livraison à domicile. Pour le take-out, c'est pas possible, mais pour une livraison à domicile, c'est possible. Et cette culture-là n'existe pas. Alors, évidemment, tout l'aspect de la marge bénéficiaire qui permet de déclarer un profit à la fin de l'année là, rend les choses difficiles.
Ouais. Mais en même temps, dites-moi, est-ce que on a quand même beaucoup vu les profits de la SAQ ont augmenté depuis le début de la pandémie? Les gens n'ont pas dû boire moins de bière au Québec, Monsieur Légé-Bourgoin?
Non, vous avez raison, Isabelle. Les gens ont bu légèrement moins de bière. Faut dire aussi que les grands événements estivaux, là, estivales, le Grand Prix du Canada, ouais. Le Festival d'été de Québec, tout ça, où c'est des endroits où on vend beaucoup de bière pendant une année, ça n'a pas eu lieu. Alors, évidemment, ça nous a fait mal.
OK, on a bu un petit peu moins de bière que d'habitude.
Un petit peu moins de bière que d'habitude.
Avez-vous des chiffres? Avez-vous un comparatif, là?
À peu près 2% de moins au Québec ce jour-là par rapport à l'année précédente. Donc, vous voyez que c'est pas énorme. Mais, tu sais, je vous permets de citer un exemple bien personnel. J'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu et pendant quelques jours, là, ce sont les habitants de Chambly qui venaient manger à Saint-Jean-sur-Richelieu parce Chambly est une zone rouge et Saint-Jean ne l'était pas.
Merci beaucoup, Patrice
Légé-Bourgoin.
Merci. Il voulait jaser. On se retrouve après les nouvelles.